Bonjour, bonjour chères auditrices et chers auditeurs. Je poursuis ce soir mes émissions « Qui suis-je ?» qui ont l'ambition de vous présenter un regard un peu décalé et souvent un peu révolté. De dire les choses sans langue de bois, sans filtre et souvent plus avec le cœur qu'avec la raison. Depuis la rentrée, j'ai eu le plaisir de recevoir Sylvia Oussadon-Chamzedeh qui a lancé le média en ligne satirique « Le Torchis ». Et j'invite les auditeurs à s'abonner à ce journal. Parce que s'abonner au Torchis, c'est un acte pour la liberté de la presse et c'est un acte aussi pour rire. J'ai aussi reçu la semaine suivante Patrice Skinner, forain de son état, qui nous a plongé dans un univers mystérieux, celui de la fête foraine. On a lancé d'ailleurs à cette occasion une campagne qui s'appelle « À Strasbourg, on vous aime » pour défendre le marché de Noël et faire venir encore plus de visiteurs et combattre la décroissance. Enfin, et j'aurai terminé avec les annonces, Madame B, que j'ai aussi reçue avec plaisir il y a 3 semaines, recherche un grand appartement pour pouvoir exposer ses toiles fin novembre à la mi-décembre. Vous pouvez me contacter sur mon Messenger à partir de mon Facebook Daniel Aron. Aujourd'hui, changeons complètement d'horizon, traversons la Méditerranée, tournons-nous vers le monde arabe et musulman, tournons-nous vers le Maroc et parlons de ce qui représente pour moi une révolution qui préfigure des temps nouveaux. Cette révolution est le rapprochement du Maroc avec Israël et représente, à mon avis, une redéfinition géopolitique pour les prochaines décennies. Pour ceux qui ont un peu de mémoire, qui se souviennent de l'isolement total d'Israël dans le monde musulman, le Maroc est en train de casser des décennies d'isolement, d'ignorance et de haine. Avec d'autres pays trop rares, le Maroc sait que seuls des échanges étroits mèneront vers la paix. Le chemin sera long, mais les premières marches sont les plus dures. Nous sommes ici au consulat général du Maroc, à Strasbourg. Et pour parler de ce sujet, je reçois, ou plutôt nous sommes reçus, avec grand plaisir, par le consul général du Royaume du Maroc, M. Driss El Kaissi. La tradition de cette émission est que je tutoie mon invité et que celui-ci prononce le titre de mon émission, Qui suis-je, et se présente. C'est à toi, Driss.
Ben, merci, Haroun. Je suis honoré d'échanger à travers vous avec les auditeurs et les auditrices de Judaïka à travers le programme Qui suis-je. C'est avec plaisir que je vous reçois en terre marocaine.
Tout à fait, nous sommes en terre marocaine. Tu peux un peu me parler de toi, peut-être ? Tu es consul depuis combien de temps ?
Ici, depuis le 15 septembre 2020, mais j'ai derrière moi une petite carrière diplomatique quand même. J'ai passé à nos ambassades en Thaïlande entre 1995 et 2001, suivi donc d'un passage à Moscou, en Russie. Après, c'était Budapest. Et en fin de compte, Bruxelles pendant 6 ans au sein de la mission du Maroc auprès de l'Union européenne. Après, juste avant ma nomination ici, le 15 septembre 2020.
D'accord, félicitations. Et tu te sens bien en terre marocaine alsacienne ?
Oui, je dois dire que la fonction même de consul, c'est quelque chose qui me surprend tous les jours. Parce qu'en comparant avec ce qu'on faisait jusqu'à présent dans les capitales européennes, travaillant pour des ambassades, être en contact avec des responsables politiques, avec des hauts personnalités. Mais ici, on est plus sur le terrain. Donc on rencontre les gens au niveau des mairies, donc là où il y a des concentrations de Marocaines et des Marocains. Mais pas que, on voit aussi donc, des relations avec... justement, les Juifs marocains, par exemple, je découvre agréablement qu'il y a une communauté importante ici. Et on essaye de faire avancer les relations maroco-françaises, sachant que le Maroc, il est en continent africain, la France européenne, donc on est sur une coopération continentale et même civilisationnelle. Et les Marocaines et les Marocains ont un grand rôle à jouer et ils le font de manière presque parfaite.
Une petite question, quel est pour toi l'homme politique français le plus marquant de l'histoire récente?
Oui. Ben, de loin, je crois qu'il y a eu des hauts responsables français, mais surtout des présidents de grande valeur. Nous, au Maroc, on apprécie beaucoup Jacques Chirac, qui était un ami du Maroc. Il passait beaucoup de temps chez nous au Maroc.
D'accord. Toute petite question. En préparant l'émission, je me suis demandé, est-ce que tu es déjà allé en Israël? Ou c'est difficile ou non?
Non, pas encore. Juste, il n'y a pas eu d'opportunité ou de raison vraiment professionnelle. Mais l'idée d'aller visiter Israël, pour nous, c'est aussi dans le programme, Inch'Allah.
Bien, Inch'Allah. Le consulat marocain où nous nous trouvons, en venant dans ton bureau, nous sommes passés devant une exposition qui est très, 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 je trouve, parlante. Tu peux nous en dire quelques mots, peut-être?
Oui, l'exposition des Goumiers, parlait des compétences marocaines, c'est sur initiative d'un jeune homme marocain, Jamel Saïd, qui réside à Lunéville et qui est passionné donc, par l'histoire des Goumiers. Donc il est venu me proposer donc, l'idée de développer des projets sur le sujet et j'ai beaucoup aimé. On travaille sur ça avec la possibilité de même... aller vers les traces de ces Goumiers, même au Maroc. Maintenant, justement, aujourd'hui, on reçoit une délégation de la ville du Val d'Ajol, là où des Marocains, ils passaient des temps durant cette guerre contre le nazisme. Et même la maire de Val d'Ajol, elle se déplace aujourd'hui pour l'événement. Et l'idée, c'est d'aller de l'avant dans la coopération sur le sujet.
Le thème de mon émission est aujourd'hui, les relations Maroc-Israël sont-elles un modèle d'avenir pour le monde musulman? Je voudrais rendre hommage ici au Maroc, qui me semble être le pays musulman le plus avant-gardiste. Avant-gardiste parce que ces échanges incessants avec le monde entier, tu en as parlé avant, évidemment avec l'Afrique, avec l'Europe, mais avec aussi les autres parties du monde, fait que le Maroc est un pays ouvert, qui permet surtout à tous les amoureux de ce pays d'y être bien, ce qui est souvent pas évident dans le monde musulman, et en particulier pour les Juifs. Hein. Ensuite, c'est un pays où la monarchie respecte le jeu démocratique, qui fonctionne avec des élections très suivies, et où, surtout, l'alternance est possible. C'est bien de faire des élections, mais c'est beaucoup mieux d'accepter l'alternance. C'est un mot magique qui a beaucoup plus de sens que celui d'élection, parce que souvent les élections sont truquées. Et ce mot magique est malheureusement si rare de l'autre côté de la Méditerranée. Enfin, et surtout, avant-gardiste, parce que la manière d'entretenir et d'enrichir les relations entre le Maroc et Israël sont exemplaires. Le Maroc assume et revendique son identité juive. Et je veux dire qu'à mon sens, à notre époque, la relation avec Israël est un curseur de modernité. Certains refuseront cette affirmation. Mais les relations toujours compliquées et difficiles avec Israël avec Israël, prouve une tolérance, un pragmatisme, une intelligence dans les relations internationales. Et ainsi, je pense, c'est surtout une solution pour la paix. Quoi de plus moderne que de chercher toujours la voie de la paix? Le Maroc est donc véritablement un modèle de par ses relations avec Israël. Driss, monsieur le consul, nous sommes ici dans un lieu de diplomatie. Tu as une carrière de diplomate. Le Maroc se rapproche de plus en plus d'Israël à des niveaux très élevé. Pourquoi ?
Il faut dire que le Maroc, il joue toujours, il a toujours joué un rôle primordial dans la question de paix au Moyen-Orient. Le Maroc, c'est le roi des fins Hassan II qui était derrière le premier accord de paix à Camp David. Donc il y a eu rétablissement déjà des relations avec l'Égypte et la Jordanie. Et le Maroc, il a joué un rôle vraiment primordial. Donc le Maroc, il est là. On est un peu loin, c'est vrai, géographiquement de cet espace, mais quand même, le Maroc, il reste toujours présent, jouant le rôle qui lui prévaut.
Un acteur influent.
C'est ça, donc on est toujours là.
Et tu penses que le Maroc peut faire avancer les autres pays musulmans vers une paix, ou en tout cas des échanges fructueux avec Israël ?
Je viens. Donc le Maroc, comme j'ai dit, on continue. Nous, les relations avec Israël, elles existaient. Il y avait un certain moment des bureaux de liaison. Mais le Maroc, ce qui le conforte dans cette position, c'est justement le fait qu'il y ait plus de 800 000 juifs d'origine marocaine en Israël. Donc cette relation, elle est spéciale, particulièrement avec la monarchie marocaine. Mmh. Et ça n'a pas commencé aujourd'hui. Depuis 12 siècles, à travers donc, les monarques marocains, il y a eu toujours cette bonne relation.
Est-ce que tu penses que le Maroc peut devenir un leader sur cette voie de la paix? Est-ce que tu penses qu'ils peuvent vraiment représenter un combat pour les prochaines décennies?
Oui, mais en même temps, nous cherchons la paix pour tout le monde. Il faut essayer vraiment d'aller de l'avant à travers donc déjà cette promotion économique, des emplois pour les jeunes.
Mais ça aussi aide, des échanges d'ambassadeurs.
Oui, ça a été fait d'ailleurs.
Oui, fait.
L'ambassadeur d'Israël vient d'être nommé officiellement.
Voilà, tout à fait.
Ça devrait être le cas du côté marocain.
C'est quand même un symbole extraordinaire.
Bien sûr.
Extraordinaire. On a quand même dû attendre des décennies pour arriver à cela.
Oui.
Donc on a l'impression un petit peu qu'il y a une accélération en fait des choses. Est-ce qu'on peut espérer un jour que le roi sera le prochain leader musulman à fouler le sol israélien et à être reçu à la Knesset?
Vous avez déjà utilisé le mot géostratégique. Il y a vraiment une inflexion dans les relations internationales à travers ces accords d'Abraham qui ne concernent pas seulement le Maroc avec l'implication des États-Unis. On va continuer. Il y a une base maintenant sur laquelle on peut donc s'appuyer pour aller de l'avant. Il y a déjà des projets, même sécuritaires, entre nos deux pays. Il y a aussi des possibilités de coopération technologique dans certains secteurs comme l'agriculture. Ne parlons pas du tourisme là avec les compagnies aériennes qui s'ouvrent, les lignes aériennes qui s'ouvrent. Donc oui, je crois que on est bien parti pour un renforcement des relations et le Maroc devrait jouer un rôle primordial dans cette relation.
Est-ce que tu espères que le roi aille en Israël? Ou tu ne peux pas répondre à cette question?
Je crois que le roi, comme vous le savez certainement, donc en même temps, on est toujours dans une position d'être toujours là pour une médiation. Donc nous, les Palestiniens, la question palestinienne, elle est aussi importante. Donc certainement, avec une petite avance en parallèle dans le processus, certainement, il y aurait certainement une visite, pourquoi pas.
Espérons-le vraiment. Le rapprochement entre le Maroc et Israël crée-t-il des problèmes au Maroc avec d'autres pays arabes? Est-ce que vous sentez qu'il y a des tensions dans vos différentes ambassades, dans de pays musulmans qui ne comprennent pas justement ce rapprochement?
Il peut y avoir, mais nous, nous restons souverains, nous savons où nous allons. Et la décision a été mûrement réfléchie et nous, notre roi qui est le garant donc et le dernier décideur en matière de relations diplomatiques, on a confiance en ce que le roi décide et on va avancer, sachant que tout est lié. Quand on parle des relations diplomatiques, il y a aussi une certaine saut marocain dans le cadre de la région en tant que, qu'influenceur de la région. Et ça, certainement, ça dérange quelques parties, mais ils peuvent toujours se prévaloir de la question palestinienne pour parler, mais c'est juste, c'est une façade.
Oui, bien
sûr. Normalement,
c'est
vraiment la concurrence au niveau régional qui pousse certains pays à ne pas être à l'aise avec ce rapprochement.
Totalement. Je t'ai demandé de choisir une musique pour faire une petite pause. Je t'avais demandé une chanson d'amour. Qu'as-tu choisi ?
C'est une chanson d'un grand chanteur marocain, Amel Hlo. Et en arabe, c'est Bledi Azin Boulan. C'est mon pays le plus beau qui est toujours, qui est toujours fervent pour ses visiteurs. Il est toujours là pour leur espérer la bienvenue.
D'accord. Alors, écoutons.
بلادي يا زين البلدان يا جنة على حد الشوق يا أرض كريمة مضيقة وجمالها ناطق بحروق بلادي يا زين البلدان يا جنة على حد الشوق يا أرض كريمة مضيقة وجمالها ناطق بحروق
Je voudrais qu'on parle maintenant de l'identité juive au Maroc. Les juifs sont arrivés il y a 2000 ans. Ils sont parfaitement ancrés dans votre pays. Certains parleront d'intégration, mais il me semble que le mot est faux. Les juifs au Maroc sont chez eux, tout simplement. Tu es d'accord avec cette affirmation ou pas ?
Oui, bien sûr. Et la preuve, comment on voit donc, cette enthousiasme, cette ferveur. Il demandait juste plus de possibilités, plus de lignes aériennes. Et là, ils sont maintenant avec un grand nombre. Ils viennent au Maroc.
La constitution marocaine reconnaît la part de judaïté du peuple marocain. Quelle est cette part ?
Effectivement, dans notre constitution de 2011, elle dit clairement que le royaume du Maroc fait ressortir que l'unité de l'État, forgée par la convergence de ses composantes arabo-islamiques, amazir, sahraoui, hassani, s'est nourrie et enrichie de ses affluents hébraïques et méditerranéens.
Oui, c'est un effet très clair. Et ça fait du Maroc le seul pays musulman à reconnaître, en fait, justement, son identité juive, alors que les juifs sont présents dans tout le monde arabo-musulman, en fait, historiquement. Et c'est, en effet, tout à fait remarquable. Je pense que c'est toujours bien de le rappeler et de le rappeler.
Oui, c'est la particularité du Maroc et particulièrement la monarchie marocaine qui est vraiment très ancrée dans ce pays et qui protège et sauvegarde et maintient cette relation avec les Juifs marocains.
Très bien. On va parler un tout petit peu d'actualité. Les élections ont vu la participation, les élections marocaines ont vu la participation très très forte et surtout l'effondrement des intégristes. Peut-on parler à la fois d'une vraie maturité démocratique au Maroc et comment expliquez-vous la claque qu'ont pris les intégristes ?
Ben, justement, la particularité du Maroc, elle s'affirme justement à travers les élections qui permettent un changement, donc une alternance. Des conservateurs, ils peuvent toujours avoir une position, mais en matière de diplomatie, en matière de relations internationales, c'est le roi qui décide des relations externes. Et donc, et après, tout le monde suit. Maintenant, les élections, il y a aussi, et pas seulement, et peut-être la question du rétablissement des relations avec Israël pourrait avoir un impact, mais il y a aussi les Marocains, ils suivent donc ce que fait le gouvernement du point de vue économique et politique et social, pas seulement sur cette question.
Au Maroc, comme dans le monde entier, les foulards sont apparus. Portée par les dames. Mes amis qui connaissent le Maroc depuis 30 ans ne voyaient pas de femmes voilées au Maroc il y a quelques décennies. Aujourd'hui, c'est le cas. Est-ce un paradoxe ou le fait religieux est-il en train de remettre en question la modernité de votre pays ?
Encore une fois, maintenant, le Maroc se base quand même sur la liberté de s'habiller de la manière qu'on veut. Maintenant, est-ce que c'est une marque de plus de conservatisme ? Il peut y avoir des impacts, mais il ne faut pas oublier qu'avec la médiatisation, les grandes chaînes satellitaires et tout ça, ça est venu à un certain moment.
Ouais.
Mais le Maroc, il fait l'effort d'informer et de corriger et en se basant sur le juste milieu en matière religieuse.
Le roi est le commandeur des croyants. Donc c'est le commandeur des musulmans, des juifs, des chrétiens, peut-être des bouddhistes croyants. Cette appellation est surprenante, je trouve. Est-ce qu'elle s'adresse uniquement aux Marocains ou aux croyants du monde entier ?
Ben, on n'a pas vraiment cette prétention pour le monde entier, mais au moins entre Marocains, oui, c'est sûr. Maintenant, souvent, des citoyens arabes et musulmans, ils demandent parfois que le roi représente même le musulman. Maintenant, ça peut venir si ça peut être utile. Et sur la question du Moyen-Orient, je crois que ça joue.
D'accord.
Cette légitimité historique marocaine, elle joue.
J'ai encore deux questions. Au Maroc se posent des problèmes de liberté pour les minorités LGBT. Je recevrai d'ailleurs un Marocain, il se trouve qu'il est Marocain, qui a dû quitter le Maroc pour vivre sa sexualité. Il est homosexuel. Que pensez-vous de l'évolution des mœurs ? Le Maroc s'ouvre de plus en plus au monde, multiplie les échanges. Est-ce qu'il y a une évolution aussi des mœurs qu'on peut peut-être espérer pour les minorités LGBT ?
Je crois que ce genre de situation, elle a toujours existé à travers l'histoire. Maintenant, si tu communiques plus, ça donne aux ennemis de ce genre de comportement la possibilité de réagir. Maintenant, au point de vue loi, rien vraiment n'empêche ou interdit que quelqu'un prenne... Maintenant,
il y a des problèmes de liberté quand même. Il y a quand même des conséquences pénales hein, pour une homosexualité qui est affirmée. Souvent familial aussi, puisque ça heurte certains, mais comme ici d'ailleurs, souvent. Mais il y a quand même des conséquences pénales. Est-ce que tu penses qu'il peut y avoir une évolution, justement, de la législation ?
Oui, nous, au niveau du Maroc, il y a la société civile qui est active sur certains sujets.
Oui.
Il y a aussi le Centre national des droits de l'homme, qui reçoit les doléances et les plaintes individuelles. Mmh. Maintenant, si vraiment la question elle a vraiment cette importance, elle peut passer à travers le Parlement et changer la loi. Maintenant, la société civile qui doit évoluer, sachant que si tu fais un référendum aujourd'hui sur cette question au Maroc, est-ce que tu peux avoir plus de 20%? Je ne crois pas.
Mmh. Alors... Pour terminer cette émission, je voudrais juste parler d'une rencontre que tu organises au Conseil de l'Europe, qui dit tout en fait sur un petit peu notre discussion. Tant le thème que le lieu de cette rencontre sont très parlants, je trouve. Vous organisez une rencontre au Conseil de l'Europe sur le modèle de la culture judéo-marocaine, sur la dimension du vivre ensemble et du dialogue interculturel. C'est le 3 novembre en matinée au Conseil de l'Europe. Tu peux en dire juste peut-être deux, trois mots ?
Ça rentre parfaitement dans notre stratégie justement de la promotion du vivre ensemble marocain, particulièrement en donnant comme exemple la culture juive marocaine et essayer d'impliquer donc les juifs marocains de la région de l'Est pour venir et voir donc l'événement. Il y aura deux orateurs du Maroc, une dame qui parlera du vivre ensemble, et il y aura un écrivain marocain qui a déjà produit un livre sur la culture juive marocaine. Et j'invite bien sûr nos amis de la communauté juive de s'inscrire et de venir.
Je donnerai le lien sur Radio Judaïka et sur mon Facebook Daniel Aron. J'ai une toute dernière question en quelques secondes que je vais poser dorénavant à tous mes invités. Qu'est-ce que le Maroc peut apporter à la France pour la prochaine élection présidentielle ?
On essaye au maximum de ne pas interférer dans la politique. Mais je dois dire qu'il y a des franco-marocains qui ont des rôles à jouer, certainement. Et essayer donc d'aller de l'avant sur des principes de vivre ensemble, comme ce qu'on fait au Maroc.
Voilà. Merci beaucoup, Driss. Je donne rendez-vous à nos auditrices et auditeurs la semaine prochaine. Et dans 15 jours, je peux annoncer que mon invité sera le grand rabbin Harold Weil, qui a accepté mon invitation et avec qui on va bien rigoler d'ailleurs, je pense. Merci à vous et merci Driss.
Merci.